Les radios francophones publiques présentent Michel Berger, Tout pour la musique. Une série en 9 épisodes réalisée par Cécile Posse et mise en onde par Pierre Devalet.
J'ai une adoration pour le chocolat et pour Gershwin.
Michel Berger, c'était un artiste au sens le plus complet.
Il a une grande sensibilité dans sa musique.
C'est une chance fantastique de pouvoir avoir un don dans le domaine artistique.
8e épisode, l'humaniste.
Tellement belle âme qu'elle peut échapper à personne.
Il avait un charme incroyable.
Le moment dans sa vie où il était le plus heureux, c'est quand il faisait de la musique.
J'ai une réputation plutôt difficile parce que je suis assez exigeant.
Michel est un mélodiste fantastique.
Ses chansons sont intemporelles.
Michel est quelqu'un de très actif.
Michel avait beaucoup d'humour, évidemment très fin, très très fin.
Il aimait bien dire des bêtises.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Alors, Michel Berger.
Oui.
Et qualité, chanteur, auteur, compositeur, ACI.
Prouvez-le.
Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal.
Michel Berger est extrêmement sensible au monde qui l'entoure. Généreux par nature, le musicien s'engagera dans l'humanitaire dans les années 80.
Je crois que c'est très difficile maintenant de vivre dans le monde dans lequel on vit sans être concerné, sans être agressé complètement par la mauvaise qualité de l'homme en général qui nous est prouvée toute la journée dans le journal, dans les journaux télévisés, et de radio et dans tout ce qu'on peut voir autour de nous. Moi, j'ai un petit peu l'impression qu'on nous répète tout le temps « l'homme est un salaud » et ça s'arrangera jamais. Et puis en même temps, vous savez, il y a une espèce de, je crois, de bonne composition qui est à l'intérieur des hommes qui fait qu'on a quand même le dessus et qu'on est quand même optimiste, qu'on arrive à se dire qu'il y a certainement une solution quelque part. Mais c'est certain qu'on vit une époque assez difficile quand même à assumer. Ça, je crois que tout le monde le ressent. Peut-être que c'est encore plus pénible quand on a une expression artistique comme occupation, parce que vraiment, émotionnellement, c'est très dur à assumer, ça.
Michel Berger, c'est quelqu'un qui s'intéressait au monde autour de lui. Donc, il était proche de certains hommes politiques, même presque plus conseillers politiques, comme évidemment Jacques Attali, dont il était très proche.
Mathias Goudot, réalisateur de documentaires.
C'était, on peut dire, politique. Alors aujourd'hui, on est obligé de le préciser, vu ce qu'est devenu la politique, mais politique au sens politis de la cité et de la réflexion politique, pas forcément même politique. Et il se trouve qu'à l'époque, beaucoup de chanteurs étaient assez proches du pouvoir politique en place et du pouvoir du Mitterrand via Jack Lang notamment pour défendre les quotas et soutenir la mise en place des quotas de chansons françaises, pour soutenir la bande FM qui va exploser mais qui va donner aussi une diversité, en tout cas au départ, diversité musicale en France. C'est quelqu'un évidemment de concerné, c'est quelqu'un qui parle de politique et c'est quelqu'un qui peut pas ne pas s'engager et dans la vie et dans ses chansons.
Lui était un homme plutôt à gauche.
Bernard de Bosson, son producteur et ami.
Alors moi j'avais eu des bagarres mais invraisemblables avec Michel, où il me disait « je suis très fier de payer beaucoup d'impôts ». Mais je lui dis « mais t'es quand même un abruti toi, t'es un crétin, t'as monté une boîte pour aider des jeunes, pour monter des trucs, t'as des moyens légaux, parfaitement légaux, d'essayer de payer un petit peu moins d'impôts pour justement, avec cet argent, pouvoir avoir de plus de moyens pour investir sur des jeunes ». Je me battais avec lui, hein. Je me suis battu avec lui. Et il avait évidemment une sensibilité qui était plutôt une sensibilité d'homme de gauche, mais c'était pas la gauche caviar, c'était pas le babacool, c'était pas le bobo, vous voyez ce que je veux dire. C'était, il avait une ouverture plus grande sur les autres et il avait la notion de partage, Michel. C'était quelqu'un d'excessivement généreux. S'il était là, il m'en voudrait de ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Michel s'occupait de plein de gens, personne ne sait. Et Michel s'intéressait et aidait plein de gens de façon très discrète, avec infiniment d'humilité et de modestie. C'était tout à fait dans la dimension du personnage.
Bonjour, une édition spéciale du journal de 13h. Les Français ont choisi, c'est donc François Mitterrand qui devient le 21e président de la République. François Mitterrand a donc été élu avec 1 100 000 voix de plus que Valéry Giscard d'Estaing, une différence de 3,5 à 4%. Quelques minutes plus tard, le nouveau président de la République, François Mitterrand, au milieu des micros et des caméras à Château-Chinon, faisait donc sa première déclaration en tant que chef d'État.
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière pourra répondre aux exigences du temps présent.
Ne sentez pas ces gens heureux. Ne pensez pas que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, de tout à fait inhabituel. Ils se mettent à danser. Et parce qu'ils ont espoir.
On était tous contents. On était tous persuadés que la France était dirigée par une grande bourgeoisie qui tenait les cordons de la bourse et qui tenait toutes les ficelles. Et qu'enfin, ça allait se libérer. Et lui était plus branché que ça. Il allait avec France, ils allaient à l'Élysée, tout ça, de temps en temps, je crois.
Il était très, très déçu par les politiques. Il les trouvait insupportables.
Bernard de Bossu.
Mais il y avait quelqu'un pour qui il avait une admiration énorme, encore une fois. Il avait une grande admiration pour Mitterrand, quand même. Pour l'homme, peut-être pas pour le politique, hein, mais pour l'homme qui était quand même quelqu'un d'assez impressionnant, quoi. Et c'est vrai qu'il a connu Mitterrand un petit peu par Attali, hein. Mais c'est Jacques Attali qui était véritablement pour lui. Je pense qu'on peut dire qu'ils avaient une véritable relation d'amitié quand même. Comme Attali l'avait avec Coluche, vous voyez, des gens comme ça. Quoi. D'ailleurs, c'était un peu la même équipe. Moi, j'ai dîné une fois avec Coluche chez Michel. J'ai rarement entendu rigoler de ma vie. Je ne l'ai pas vu beaucoup parce qu'on était une douzaine à table. Mais voilà, ils avaient tout un groupe de personnages comme ça.
Alors, c'est vrai que Michel a été invité à l'Élysée du temps de la présidence de François Mitterrand.
Patrick Haas, son cousin.
Et puis il était proche aussi de Jacques Attali. Moi, il m'a dit que ça l'amusait beaucoup de se retrouver là, dans ce milieu très guindé, organisé, avec des codes, etc. Mais il en parlait avec beaucoup d'humour et de recul, en tout cas.
Michel, c'était quelqu'un, il n'y avait aucun sujet qui ne l'intéressait pas.
Yves Bigot.
Donc tout ce qui était lié d'une manière ou d'une autre à l'actualité, le destin de l'humanité, etc., ça se retrouvait dans ses chansons. Est-ce que... Alors, en France, on aime bien dire des chansons à message, des chansons engagées, etc. Ben non, c'était juste des chansons qui parlaient de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils constataient. Hein. Ça paraît être un processus extrêmement naturel.
Derrière des barreaux, pour quelques mots qu'ils pensaient si fort, dehors, dehors il fait chaud, des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Mais quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Qui rit, je pense à lui. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort, peut-être.
Vous avez déclaré à propos de la nouvelle génération: tout vient de l'héritage qu'on nous a laissé. Nous avons la bombe atomique au-dessus de nos têtes, les pays du tiers-monde accrochés à nos basques, et vous vous étonnez que nos chansons soient tristes.
Ah oui, c'est vrai. Moi, je me suis fait engueuler des tas de fois parce que je faisais des chansons tristes. Et puis, je ne suis pas le seul. Alors là, c'est vraiment tous les gens de ma génération, c'est comme ça, parce qu'il faut que ce soit gay, parce que Trennes était gay alors qu'ils étaient en train de faire la guerre tous, et que maintenant, nous, on n'est pas en train de faire la guerre et on crie des trucs pas forcément gays. Et on nous le reproche, c'est vrai. Il faut se défendre un peu, parce que c'est quand même le reflet du monde dans lequel on vit, il n'y a rien à faire. Puis on ne se force pas à être gay, c'est pas...
Vous avez déclaré, c'est un petit peu contradictoire, le fait que les chanteurs témoignent de plus en plus sur leur époque m'inquiète.
Non, alors ça, je trouve ça au contraire très bien de témoigner de son époque. Ce que je trouve embêtant, c'est quand on vous demande, sous prétexte qu'on est chanteur, on vous demande qu'est-ce que vous pensez de la candidature de François Mitterrand, ou de... Enfin, je veux dire, de choses très très précises... très très précise de politique et de comment, par exemple, comment on pourrait faire pour qu'il y ait moins de problèmes de surpopulation dans le monde et tout ça. Je veux dire, on est dépositaire absolument de tous les problèmes du monde entier sous prétexte qu'on chante, et ça, je trouve que ça, c'est pas normal.
Il se trouve qu'au début des années 80, Michel Berger va connaître un grand succès.
Mathias Goudeau.
Pour lui et avec France Gall, évidemment, qui cartonne sur toutes les scènes. Il se trouve qu'il va aussi vivre des drames avec le départ de son frère et la maladie de Pauline. Il se trouve qu'à partir de ce moment-là, il est évident qu'ils vont vouloir vivre d'autres choses que la vie de chanteur, tout simplement, en partant, non seulement en faisant des voyages en Chine, mais aussi en Afrique, à différentes époques. Et c'est un peu bébête de dire ça, mais c'est une réalité, il ne faut pas nier, s'ouvrir au monde. Et il semblerait qu'à l'époque... pour en avoir parlé avec certains, les naissances des radios privées, FM, vont faire que ces gens-là vont gagner beaucoup d'argent en droit d'auteur. Et juste, ces gens-là, en tout cas, vont se poser la question de quoi en faire. Pas pour eux, mais parce qu'il y a aussi un besoin de redistribuer, que Michel Berger a cette intelligence-là, a ce vrai souci-là, pas seulement de redistribuer, mais aussi d'être à l'écoute des autres.
L'état de chanteur, c'est un état de beatnik.
Alain Souchon.
À qui on donne plein de succès, plein de sourires des autres et plein d'argent. Et donc, ça nous trouble. Et lui, il était comme nous tous, c'est-à-dire qu'on voit bien l'état du monde et on se dit quelle chance j'ai. Donc, on est tous, vous avez remarqué, Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, tout ça, soucieux des autres. Parce que on est dans une position un peu privilégiée, délicate, qu'on n'a pas recherchée au départ. On cherche à faire de la musique, à jouer de la guitare, à ce que notre voix plaise aux filles ou des trucs comme ça, mais pas... Et après, toutes ces récompenses qu'on a, forcément, on se tourne vers les autres. Alors, ça a l'air démagogique, mais ça ne l'est pas. C'est comme ça. Et lui était très comme ça, très sensible à la pauvreté en Afrique, à la pauvreté des gens qui recevaient des catastrophes naturelles sur la tête. Il a toujours été très comme ça, très sensible à ça. Daniel Balavoine était très comme ça, mais il était plus grande gueule et tout. J'aimais mieux Michel à cause de sa réserve, justement. J'aimais bien cette réserve un peu bourgeoise qu'il avait.
Michel Berger et France Gall seront littéralement fascinés par l'Afrique.
C'est un continent très 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 fort, d'abord très beau et très touchant, et d'autant plus touchant qu'on a l'impression que c'est un continent qui était oublié par le reste du monde. C'est très difficile à raconter, de parler de l'Afrique, mais pour un musicien et pour quelqu'un qui a envie de parler, c'est sûr que c'est une source extraordinaire d'émotions.
Alors l'Afrique, ça a beaucoup frappé Michel, évidemment, à travers différentes chansons.
Yves Bigot, directeur de TV5 Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
Le destin de l'Afrique... ça renvoie à notre humanité, hein, le destin de l'Afrique. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'une espèce doit être solidaire et que donc ce qui se passe en Afrique, les famines, la pauvreté, etc., c'est notre problème? Ou est-ce qu'au contraire, on considère que voilà, hein, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées et que donc c'est leur problème, c'est pas le nôtre? Alors, ce qui est d'autant plus injuste que souvent c'est leur problème parce qu'on est allé là-bas et qu'on leur a expliqué que leurs ancêtres étaient gaulois et que donc nous étions la solution à des problèmes qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient avant qu'on aille chez eux. Donc c'est très compliqué à gérer, hein, comme situation. On le vit d'ailleurs dans l'actualité tous les jours aujourd'hui, qu'on soit en France ou en Belgique, hein, puisqu'on est deux anciennes puissances coloniales. Voilà, Michel, il a été, je pense qu'il a été frappé à la fois par des histoires individuelles, hein, et des histoires humaines, comme l'histoire de Babacar.
L'histoire de Babacar, c'est une histoire assez extraordinaire.
Bernard de Bosson.
Michel et France vont donc avec Daniel ou sans Daniel, je ne sais pas, ils se retrouvent à Dakar. Un jour dans la rue, il y a une femme qui est venue vers France et qui lui a dit « je te donne », lui a donné son enfant. Alors, nous avons su après que ça se faisait assez couramment, ça. Et France et Michel étaient évidemment complètement bouleversés de cela. Et France est revenue en disant « qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» et tout. Elle voulait vraiment l'adopter, quoi. Et c'est à ce moment-là, comme ils y retournaient, que j'ai dit à France et à Michel « vous allez voir mon ami Moustapha qui a pris les choses en main et qui leur a dit « faites très attention parce que ça se fait souvent et vous allez donner de l'argent et l'argent il va servir à tout sauf à cet enfant ». Donc les choses ont été totalement cadrées par Moustapha et c'est comme ça que les choses se sont faites. Je ne sais pas exactement juridiquement quelle est la situation, mais ils ont véritablement pris en charge l'éducation de cet enfant, mais de façon excessivement cadrée, de façon juridique, pour éviter justement des abus et des choses comme ça. Là, ça remonte à 85 quand même, hein, 85 je crois.
Michel Berger, tout pour la musique.
Entre 1985 et 1986, Michel Berger, France Gall, Daniel Balavoine, Lionel Rodecage et Richard Berry lancent l'opération humanitaire Action École. Il s'agit de sensibiliser les élèves des écoles et des lycées français afin de récolter des fonds pour financer des projets précis sur le continent africain.
Action École, ça naît du concert Live Aid.
Yves Bigot.
À Wembley. Où Monique Lemarcy de RTL a invité un certain nombre de chanteurs français, dont Jean-Jacques Goldman, dont Daniel Balavoine, et Lionel Rodecage, qui est un ami de Bob Geldof, qui est un journaliste français, qui a beaucoup déjà travaillé dans l'humanitaire, qui a travaillé avec Bernard Kouchner, etc., qui dit à... Alors, les chanteurs français sont épatés, évidemment, par Live Aid, parce qu'on fait les Anglais, les Américains, c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous qui ne savons pas faire ce genre de truc, etc. Et donc, Lionel dit à Daniel, il dit, ben... Mais c'est pas compliqué, il y a des trucs qu'on peut faire, voyons-nous, avec Michel, avec France, Richard Berry qui s'est joint à eux, puis plus tard Karl Bouquet notamment, Bernard Kouchner qui a été aussi un des sympathisants. Voilà, c'est autour de Lionel Rodcage et de Bob Geldof qui habitait chez Lionel, avenue Parmentier. Et voilà, Action École est née comme ça, avec Lionel disant « mais c'est à travers... » les lycéens, c'est à travers les enfants, les adolescents, les jeunes adultes qu'on va pouvoir sensibiliser la société française. Et on s'est beaucoup mobilisé. Michel et France ont été extrêmement impliqués, Daniel aussi, parce que personne, évidemment, n'a dépensé un centime dans cette histoire. On payait les taxis de notre poche. Contrairement à beaucoup d'associations humanitaires, etc., nous, on n'a pas utilisé un seul francs, un seul centime de l'argent qui est arrivé et qui a été versé pour le fonctionnement. Ça a été un moment très fort hein, pour souder tous ces gens entre eux. Il y a eu le concert de la Courneuve qui a été co-diffusé sur Europe 1, RTL, France Inter, donc sur toutes les radios françaises en même temps. C'est la seule fois que c'est arrivé, qui n'a pas été un grand succès. Je me souviens, France était absolument furieuse de dire « mais ça a été mal organisé, on ne sait pas faire comme les Anglais, on aurait dû organiser des trains, des autocars ». Elle avait raison, hein, parce qu'il n'y avait même pas 20 000 personnes à la Courneuve, alors qu'on aurait pu en accueillir, il y en avait 70 000 pour les concerts de Springsteen. Hein. Ça n'était pas Action École hein, qui l'avait organisé, c'était une autre organisation qui s'appelait Chanteurs sans frontières, qui avait été montée par Renaud et Valérie Lagrange. Mais oui, l'implication de Michel et de France, elle a été très très grande. Ça a vraiment été un engagement extrêmement sincère et désintéressé. Je veux dire, il n'y avait vraiment aucune idée de faire leur promotion, etc. Au contraire, en revanche, c'était une source d'inspiration pour les chansons, très importante.
Il y a quelque chose de très, pour le coup, de très physique dans l'engagement de Berger.
Didier Varro.
Cette prise de conscience... qu'on ne peut pas aller à la télévision juste pour dire effectivement la famine c'est dégueulasse et il faut faire quelque chose et je vais faire quelque chose en chantant des chansons sur la famine. Non, il y a cette prise de conscience que l'action concrète est nécessaire. C'est encore une histoire de nécessité. Tout chez Michel Berger est nécessité et à partir du moment où c'est nécessité, Michel Berger se met en marche. Et donc là, sur Action École, il va mettre en pratique ce que Daniel Balavoine aussi pensait sincèrement et qui faisait partie de leurs conversations souvent les plus fournies et les plus exaltées, à savoir de dire à quoi sert une chanson si elle est désarmée, à quoi sert un chanteur si, à un moment donné, il ne s'engage pas physiquement. Donc voilà, Action École, c'est ça. C'est essayer de mettre physiquement du concret dans une action. Daniel Balavoine, quand il part au Paris-Dakar, implanter des pompes à eau dans le désert, en profitant du Paris-Dakar, d'une manifestation ultra-médiatisée pour pouvoir mettre en lumière son combat. Son combat, c'est pas juste de crier l'injustice et la tragédie que traverse l'Afrique à l'occasion de ce Paris-Dakar. C'est dire, voilà, oui, c'est une tragédie, mais le concret, c'est là, c'est maintenant. C'est mettre de l'eau là, ici, présentement. Et de l'expliquer et dire, voilà, l'eau, c'est la vie. Et à partir du moment où il y a la vie, on peut commencer à parler de culture, par exemple, et d'éducation, etc. Michel Berger, c'est aussi quelqu'un qui est obsédé par la transmission, qui pense qu'effectivement... comme Goldman, c'est à coups de livre qu'on peut franchir les murs. Donc voilà, il y a ce truc-là aussi qui est très important chez Berger, c'est de se dire, lorsqu'on est artiste, on est un entertainer, il ne faut jamais oublier que l'on reste d'abord un entertainer, un homme de spectacle, mais qu'on a aussi une place suffisamment inviable pour pouvoir être le vecteur de la transmission.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance, ou Dieu qui nous foudroie. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance. soir. Les femmes douées dansent, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qu'ils ne la voient pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance, et l'eau n'arrive pas. Sur cette affreuse urgence, et que c'est sur nos tombes que le désert avance.
Bonjour, le rallye Paris-Dakar est en deuil. Son organisateur Thierry Sabine s'est tué hier soir dans un accident d'hélicoptère et avec lui le chanteur Daniel Balavoine, notre consoeur du journal du dimanche Nathalie Odent, le pilote François-Xavier Bagnou et le technicien radio Jean-Paul Le Fur. L'accident s'est produit vers 7h du soir, on en ignore les circonstances exactes, mais un fort vent de sable avait soufflé toute la journée sur le désert et il est probable que c'est la cause de l'accident. Daniel Balavoine avait 33 ans, c'est ce qu'il est convenu d'appeler un chanteur populaire qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui aimait parler d'autre chose que de la chanson, qui aimait dire, Jean-Marc Stricker, « je m'emporte pour ce qui m'importe ».
Ce n'était pas le genre d'homme, entre deux tournées ou deux palais des sports, à chausser égoïstement ses pantoufles auprès de sa femme et de son petit garçon. Cette année encore, il suivait le Paris-Dakar, non pas en touriste, mais pour apporter des vivres et des médicaments au pays démuni traversé par le rallye.
Vraiment que l'amour qui vaille la peine. Y'a vraiment qu'aimer l'amour qui tienne. Pas celui qu'on lit dans les mauvais poèmes, mais le vrai.
Celui qui nous dévore le cœur, qui nous fait peur.
Y'a vraiment que l'amour qui vaille la peine. Vraiment qu'aimer d'amour qui tienne. Pas celui qui dort au chaud dans la laine, mais le vrai.
Celui qui porte la vie ou la mort en nos veines.
Vraiment que l'amour qui vaille la peine. Vraiment que l'amour qui vaille la peine.
La mort de Balavoine va être annoncée en France le lendemain de l'accident et de la réalité. C'est-à-dire que l'accident, je crois, a lieu le 14 janvier. C'est annoncé en France le 15 janvier 1986.
Mathias Goudot, réalisateur de documentaires.
Cette semaine-là, Michel Berger a accepté d'être tous les jours sur une radio à animer une tranche. Ça se fait plus trop pour les chanteurs aujourd'hui, mais c'est une bonne idée. Il animait, on va dire, une heure ou deux heures d'émission. Il passait des titres qu'il aimait. Il disait pourquoi et voilà. Il se trouve que il commence sa tranche radio à ce moment-là, on appelle ça une tranche, c'est-à-dire un créneau horaire. Et évidemment, on va apprendre la mort de Daniel Balavoine. On ne va pas savoir pendant un certain temps, il va l'apprendre, mais on ne va pas avoir encore la certitude. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des infos et des bruits, mais il n'a pas la certitude encore. Donc Michel Berger va devoir tenir tout au long de cette émission en ayant cette chose-là dans la tête, sans avoir la certitude que son nouveau frère, son frère, on va dire, de musique, est décédé dans le désert à des milliers de kilomètres de là. Pour lui, c'est un coup énorme. Il va tenir le choc. Et évidemment, au sortir de l'émission, il va complètement s'effondrer. Il se trouve qu'il apprend un peu plus vite que les autres, puisque dans la radio, forcément, c'est une radio connectée à l'actualité, qu'il n'ose pas appeler la femme de Daniel Balavoine, mais qu'ils ne savent pas encore si elle est au courant, en tout cas à ce point-là. Mais c'est évident que cette matinée du 15 janvier 1986 est absolument un drame pour Michel Berger, un nouveau drame dans sa vie. C'est l'homme qui partageait des goûts artistiques. C'est un homme qui était super novateur, Daniel Balavoine, sur tous les sons, tout ce qu'il avait apporté dans la variété française au bon sens du terme, et qui allait évidemment exploser encore. Et c'était aussi l'homme qui avait une... Donc ça, c'était admiratif, parce qu'il voulait, Daniel Balavoine voulait exploser à l'étranger, en tout cas, il avait cette volonté-là. Donc ça, c'était une manière d'être admiré par Michel Berger aussi. Et puis l'homme avec qui il partageait les combats. Et Michel Berger, il admirait Balavoine, parce que Balavoine levait le poing et presque donnait le coup de poing, alors que Michel était d'une éducation et d'une classe qui fait qu'il n'aurait jamais... Il aurait levé la voix, mais pas le poing, en tout cas.
Quand Daniel est mort,
Didier Varro,
Berger était terrassé, mais au point de ne pas pouvoir parler de cette tragédie. Il y a eu un avant et un après la disparition de Balavoine. Ce truc qui tombe comme ça du ciel et qui vous désarme. Voilà, c'est un Berger désarmé, qui a perdu son frère de cœur, qui a perdu son miroir, qui a perdu son contraire aussi, qui a perdu celui qui le stimulait, parce qu'il y avait une vraie, pas une compétition, mais il y avait une vraie stimulation dans leur projet parallèle. Et c'est vrai qu'au moment où Daniel sort son album, son dernier album « Sauver l'amour », Berger est prodigieusement ébahi par le projet artistique de Balavoine. Et il se dit, d'ailleurs, à ce moment-là, que c'est Daniel qui va être la force motrice de ce fameux projet qui est de faire passer la chanson française dans la division des anglo-saxons. C'est à ce moment-là qu'il se dit, mais Balavoine, il a réussi son coup là, avec cet album Sauver l'amour. Et surtout, derrière, il a le projet d'enregistrer un album avec ces mêmes musiciens en anglais, dont il serait le chanteur, mais l'album serait porté par un nom de groupe. Et Berger est fasciné par ce truc-là, par cette capacité que Balavoine a à remettre son titre en jeu et à le remettre précisément sur le terrain de l'international.
Il y a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment. Comme des enfants, mais pas comme avant.
Il y a un autre pays qui a séduit le couple Gaël-Berger, c'est la Chine.
J'étais en Chine avec Michel, mon mari. Donc.
France Gall.
Et c'est vrai que quand on écrit, c'est indispensable de sortir des quatre murs de chez soi et de faire des voyages. En Chine, on a été très frappés par la simplicité avec laquelle vivent les gens et ils n'ont rien. Ces Chinois. Ils n'ont rien et en même temps, ils sont heureux de la moindre chose. Ils ont des joies simples.
Ce qui est bien en plus, c'est de remettre en question toutes les valeurs qu'on a. Et... Mais ça peut être des petits voyages en Europe. Moi, j'ai découvert, par exemple, là, depuis 2-3 jours, j'ai découvert deux peintres qui sont Jérôme Bosch et Goya. Pour moi, c'est un voyage. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch, c'est aussi fort que le voyage en Chine. Vous savez, c'est pas professionnel, parce que moi, je fais un métier, c'est pas un métier. Je fais un métier qui n'est pas un métier. C'est pour moi, personnellement, je veux dire, c'est en tant qu'homme, je crois qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut vivre un certain nombre de choses, essayer de comprendre un peu ce qui se passe autour. Et après, ça se répercute dans ce qu'on écrit, si on écrit. Je crois que si on se dit, ah ben ça va être utile pour mon métier, c'est un petit peu triste. C'est pas comme ça que je crois qu'il faut voir les choses. Ouais. Je crois que si ce qui vous amène à faire des choses fortes, c'est si on vit soi-même des choses fortes.
Toi, t'aurais voulu jouer Hamlet, mais les propositions qu'on t'a faites, ce sont des grands mélodes d'amour. Et les feuilletons au kilomètre, dans ton uniforme de vedette, tu fais des shows et des conquêtes, tu t'es fait débrider les yeux, mais comment faire pour qu'ils soient bleus?
Alors, il était fasciné par la Chine.
Yves Bigot.
Ça, c'est un truc très particulier. Il avait demandé à Libération de pouvoir partir en reportage en Chine et a envoyé une série de reportages au journal, transformé en Tintin Michel Berger en Chine. Et il était vraiment allé là-bas et il avait pris ça extrêmement au sérieux, extrêmement à cœur. Il a fait une petite, d'ailleurs, faute de quart qui lui a été reprochée quand il a écrit Hong Kong Star pour... France Gall, où il y avait un tout petit côté du français allant visiter les anciennes colonies et donnant un peu son avis sur comment ça devrait être ailleurs. On va dire que ça se conjuguait encore comme ça dans les années 80, donc il ne faut pas lui jeter la pierre, mais la communauté chinoise de Paris notamment lui en avait un peu voulu à l'époque. Moi, je comprends à la fois la chanson, c'est-à-dire je comprends tout à fait ce que Michel voulait communiquer dans cette chanson, parce qu'en fait, lui, ce qu'il disait, c'est « nous copiez pas ». C'est soyez vous-même, etc. Vous êtes un peu pathétique à nous copier. Et puis, ce que lui répondaient les Hongkongais ou les Chinois de Paris, c'était pourquoi les Français ont le droit de faire ce que font les Américains et nous, on n'aurait pas le droit. Ça a été une de ces rares, en tous les cas, chansons à être critiquées pour des raisons comme ça de positionnement socio-culturel. Je pense que d'Asie, il n'a pas ramené que Hong Kong Star, il a ramené aussi des chansons qui étaient frappées par le monde moderne. Des branches, c'est une chanson sur la manière dont la modernité risque de déshumaniser et le fait qu'on n'ait plus rien. Et alors, quand même, c'était assez visionnaire, puisque c'était bien avant qu'on ait tous des téléphones portables toute la journée, des ordinateurs partout avec nous, et qu'on donne vie à la scène finale de « Jusqu'au bout du monde » de Wim Wenders. Donc il avait vu ça, Michel, et il avait effectivement vu ça aux États-Unis, mais il avait vu ça en Asie déjà. C'est combien tout le monde était accroché, connecté. Alors à l'époque, c'était déjà à la télévision, à la radio, à toutes ces choses qui font qu'on vit la vie par procuration, comme l'a écrit un autre de ses collègues, mais où on risque de se déshumaniser, ou en tous les cas, de ne plus connaître l'expérience humaine qu'à travers des appareils, et plus directement. Et ça fait partie des chansons, des branches, Résiste, etc., d'un certain nombre de chansons militantes, mais qu'il a écrit pour France Gall, qui ont du sens aujourd'hui, qui ont même sans doute plus de sens aujourd'hui encore, ce qui montre que Michel, comme un certain nombre d'artistes, c'est leur rôle en réalité, de percevoir les choses avant le reste de la société, de le restituer et donc d'avoir un certain nombre de chansons mais qui prennent encore plus de sens 20 ans, 30 ans après qu'elles n'en avaient, quand on se demandait un peu quelle mouche les avait piquées de s'emparer de ce type de sujet.
Résiste. Yeah.
Michel Berger, tout pour la musique.
Toutes les chansons de France racontent des choses, que ce soit des chansons d'amour ou des chansons sur la marche du monde. Chez France, comme chez Michel d'ailleurs, il y a cette volonté de dire des choses en chanson.
Didier Varro.
On ne fait pas juste des chansons pour se divertir. La chanson, elle sert à affirmer son rapport au monde. Et Michel Berger a un rapport au monde extrêmement structuré. Et donc, la chanson est son territoire pour développer et offrir cette relation qu'il a au monde. Donc, ses colères, ses questionnements, il y a beaucoup de questionnements chez Michel Berger, ses douleurs, ses non-dits, toutes ces choses ont été exprimées à travers le répertoire de France et aussi le sien. Évidemment, le discours humaniste qui précède le courant altermondialiste, les préoccupations écologistes qui sont déjà là, la volonté de défendre la lutte contre le racisme. Voilà. Ce dont on dira d'ailleurs à propos de Michel Berger et France Gall, et un peu Balavoine, mais surtout France Gall et Michel Berger, que ce sont des porte-paroles du bon sentiment et que, voilà, oui, la guerre, c'est mal, l'eau, ça mouille et le soleil, ça brûle. Mais il y avait ce truc-là aussi chez Berger, qu'il y avait une forme de premier degré dans sa façon de lire le monde. Il avait envie qu'on estime cette façon tout à fait premier degré de lire le monde, parce que voilà, il disait, il n'y a pas de honte à aimer ça. Je reviens à une chanson de Berger. Mais non, mais il n'y a pas de honte, surtout à dire qu'on est ulcéré par la famine, qu'on est traversé de démons lorsqu'on voit les images de la famine en Afrique, lorsqu'on constate que la société devient de plus en plus raciste, qu'on est obligé de créer les Restos du Cœur pour pouvoir donner à manger à des gens en France. Enfin, tout ça, effectivement, c'est peut-être du bon sentiment, ça fait peut-être partie de la société du spectacle qui se structure dans les années 80, mais c'est aussi une nécessité. Et Michel Berger prend la chanson comme une nécessité. Ça, c'est très important. C'est quelque chose dont il m'a souvent parlé, comme Balavoine d'ailleurs, mais on n'est pas chanteur si ça n'est pas une question de vie ou de mort, en gros. On peut changer le monde avec des chansons. On peut lire le monde différemment avec des chansons. C'est ce que pense Michel Berger.
Quelque chose de beau doit nous arriver. Quelque chose de fort doit nous emporter. Quelque chose qui nous ferait vivre du jour au lendemain. Quelque chose pour quoi tendre les mains. Quelque chose de beau doit nous transporter. Quelque chose de fort doit nous faire changer. Quelque chose qui nous ferait suivre un tout autre chemin. Commençons ce rêve demain. Moins de haine, moins de guerre, moins de larmes, moins de sang, moins d'espoir d'être puissant, moins de pouvoir et moins d'argent. Et plus de sentiments. Moins de phrases, moins de serments, moins de rage d'être devant, moins de courses avec le temps, moins de mots intransigeants. Et plus de sentiments. Moins de larmes, et plus de sentiments.
Au même moment qu'Action École, Coluche crée en France les Restos du Cœur.
Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait Un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement.
Michel Berger s'engage dans les Restos du Cœur aux côtés de son ami Coluche. Les deux hommes sont proches. Coluche est même le parrain du fils de Michel et France, Raphaël.
Michel aimait beaucoup Coluche.
Grégoire Collard, son agent.
Ils sont devenus très très amis. D'ailleurs, ce qui l'effrayait chez Coluche, c'était qu'il soit un indécrottable fêtard, à faire la nuit la fête, à boire, à prendre des choses illicites, alors que Michel ne buvait pas, qu'il ne prenait rien et qu'il n'aimait pas sortir la nuit. Mais c'était des grandes fêtes chez Coluche ou chez Michel et France, avec ses rires. Il y avait cette dérision, il y avait le côté gauchiste, parce que Michel était de gauche. Il y avait beaucoup de complicité. Et puis Coluche inspirait Michel aussi, parce qu'il lui montrait une vision du monde, le côté de la dérision, du cynisme, de la moquerie, de la non-acceptation de la norme.
Française, français, cette année c'était très bien, l'année prochaine ça sera pire. Et oui, mesdames, messieurs, le pays va mieux que l'année prochaine.
Coluche, si...
Marc Kraftchik, son ami.
Si quelqu'un lui plaisait, ça allait très très vite. Si la personne ou un bon copain d'un copain, il était entouré de gens, parce qu'on dit toujours qu'il y avait une cour et tout, non, c'était des fidèles, il y avait beaucoup de fidèles. Il y a des gens qui de temps en temps venaient. Moi j'ai assisté à un dîner chez lui où, avec, à l'époque c'était des pointures, Alain Minc et Attali. Et Michel racontait ce qu'il aurait fait s'il avait été ministre ou président, je ne sais pas quoi. Et eux étaient, c'était Tex-Avery. Ils écoutaient, tout le monde écoutait. C'était, ce mec-là était un mec, ce mec, incroyable. Ah ouais, incroyable, génie total.
Le journal Patrice Bertin.
Au sommaire ce soir... Ciao Coluche, Coluche est mort, bêtement, à toute vitesse, sur sa moto, il y a 2 heures tout juste, près de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, sur la route départementale D3. Un camion de 38 tonnes lui a coupé le passage, la moto l'a percuté de plein fouet, Coluche a été tué sur le coup, l'amuseur public numéro 1 disparaît à l'âge de 41 ans. Une voix qui faisait marrer tout le monde, une voix qui vient de se briser connement, c'est comme ça qu'il l'aurait dit.
Histoire d'un mec, ça dépend des mecs. Alors, par exemple, Jean Lamech, oui, tout ça, mec. Puis les mecs, non, moi, non. Non, les mecs, alors on leur dit, mais des fois on est obligé. Non, les mecs.
J'aime pas l'idée que les gens du show business sont des gens épouvantables et que j'ai toujours entendu depuis que j'ai commencé à chanter que le showbiz est un univers abominable et que il y avait des escrocs, des gens qui pensaient qu'à l'argent et tout ça. Je lutte contre cette idée-là. Moi, j'ai peu d'amis, c'est vrai, dans ce milieu-là, mais c'est pas par choix. C'est parce que d'abord j'avais un très grand ami qui était Daniel et qui malheureusement s'est tué, mais et Coluche qui était aussi un ami très proche. Et finalement, si c'est pas de ma faute, ils meurent tous. Il y a des gens formidables. Ces deux exemples sont des gens qui m'ont énormément marqué, étaient des gens extraordinaires dans la vie.
Un soir, tu trouveras des brouillons dans leur cachette pour voir. Tu sortiras les disques de leur pochette. Notre histoire. Tu la verras défiler dans ta tête. Alors chute, pose doucement un doigt devant ta bouche et lutte, efface de ta mémoire ces mots qui nous touchent. Brute, ces images qui plonge dans la solitude. Écoute ce qu'il reste de nous, immobile et debout. Une minute de silence, ce qu'il reste c'est tout. ces deux cœurs immenses et de cet amour fou. Et fait quand tu y penses, en souvenir de nous, une minute de silence. Écoute passer mes nuits blanches dans tes volutes de fumée bleue. Cette minute de silence est pour nous deux.
Michel Berger, tout pour la musique. Prochain épisode et dernier épisode du feuilleton des radios francophones publiques. Ce sera la semaine prochaine sur France Inter à partir de 10h10. Vous écoutez...